Vous écoutez France Culture, il est tout juste midi. Dans quelques instants, ce sera la première partie de la Grande Table, mais tout de suite, les titres du journal présentés par Antoine Mercier. Le journal étant à 12h30.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Le meurtre d'un policier et de sa compagne près de Paris, les enquêteurs remontent la piste terroriste. Le meurtrier présumé, Larossi Abala, abattu lors d'une opération du RAID dans la nuit, était un homme de 25 ans, condamné déjà en 2013 pour participation à une filière djihadiste entre la France et le Pakistan. Selon le ministre de l'Intérieur, l'enquête sur cette attaque, qui a été revendiquée par ailleurs par l'organisation État islamique, doit permettre de mettre hors d'état de nuire d'éventuels complices. On reviendra évidemment longuement sur cet attentat cette nuit donc dans les Yvelines. Barack Obama va se rendre lui après-demain à Orlando pour rendre hommage aux victimes, aux familles des victimes de la fusillade qui a fait avant-hier 49 morts. Le FBI, comme le président américain d'ailleurs, sont de plus en plus convaincus que ce musulman pratiquant, un américain d'origine afghane, a été radicalisé en partie sur Internet. Hier, la thèse toutefois de l'éventuelle homosexualité d'Omar Sadiq Mateen a émergé dans plusieurs journaux américains et vraisemblablement va compliquer la compréhension des ressorts psychologiques qui ont poussé à l'acte ce père de famille de 29 ans. En France, les opposants au projet de loi travail continuent de manifester. Ils convergent vers Paris aujourd'hui pour une journée de mobilisation nationale. La CGT assure que ce ne sera pas pour autant un baroud d'honneur. Entre-temps, la loi travail est revenue au Sénat. Et vendredi, la ministre du Travail recevra le secrétaire général de la CGT. On fera aussi un point complet sur ce mouvement. Et puis le camp du Brexit a le vent en poupe, à moins de 10 jours maintenant du référendum sur une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, avec 53% dans la dernière enquête. On reviendra sur ces déclarations assez surprenantes du président du Conseil européen Donald Tusk, selon qui un Brexit pourrait marquer non seulement le début de la destruction de l'Union, mais aussi de la civilisation occidentale. Voilà donc pour les titres. C'est à vous, Caroline, pour la Grande Table.
Pour la première partie, nous allons suivre le mot de Jacques Prévert. Il faudrait essayer d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple. Parce que dans ce monde de violence, on cherche des moyens de se consoler. Comment retrouver de la légèreté, du bonheur, de la beauté, du sourire? Tentative de réponse dans deux bandes dessinées avec leurs auteurs, Charles Berberian et Catherine Meurice. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Charles Berberian, vous signez Le Bonheur Occidental chez Fluide Glacial et Catherine Meurice, La Légèreté chez Dargo. Catherine Meurice, vous racontez dans La Légèreté votre lent et difficile retour à la vie, à la mémoire, au dessin après les attentats du 7 janvier qui ont décimé l'équipe de Charlie Hebdo et où vous travailliez depuis 10 ans. Vous étiez ce matin-là arrivé en retard. Charles Berberian, dans Le Bonheur Occidental, beaucoup plus difficile de dire de quoi il s'agit parce que vous mêlez beaucoup de choses. C'est un mélange hétéroclite, et d'ailleurs je pense assumé comme tel, de planches, de feuilletons, de vignettes qui ont d'abord paru dans différents journaux et puis que vous avez compilés pour réunir dans cet album, où vous mêlez des questionnements personnels et des sujets plus généraux sur la société, disons, telle qu'elle déraille en général, on dit telle qu'elle ne va pas aujourd'hui particulièrement. On va bien sûr y revenir. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce rapprochement que nous avons voulu faire ici autour de la Grande Table en disant que malgré tout, dans les deux cas, avec vos deux façons très très différentes de procéder, il y a une sorte de fil que vous essayez de tenir, de quête de réconfort, de quête de se dire, bon, au milieu de tout ça, il faut quand même essayer de rester centré sur nous et sur ce monde-là, en essayant de retrouver une forme de légèreté, pour reprendre votre titre, Catherine Meurice.
Je m'en suis rendu compte, j'en ai eu conscience après avoir fait le livre, en fin de compte, parce que j'ai vraiment fait ce livre à l'instinct, après avoir tout perdu, la mémoire, la concentration, et évidemment des amis, l'amitié, des souvenirs. Donc quand j'ai fait ce livre, d'ailleurs au début je ne pensais pas en faire un livre, hein, il s'agissait de dessiner pour récolter des fragments de moi éparpillés, je n'ai pas pensé tout de suite à me faire du bien. En revanche, je n'ai pas pensé tout de suite à la consolation, en fait. En revanche, j'ai pensé à fixer des émotions qui m'échappaient, à fixer des souvenirs, des bouts de mémoire qui m'échappaient. Je voulais, voilà, tout fixer, tout réunir dans un livre, et il n'y a rien de plus beau que le livre pour réunir ça, en fait, ces morceaux-là. Et la consolation, c'est venu après, en fait, quand le livre est sorti, qu'il a commencé à m'échapper et que j'ai eu un retour des premiers lecteurs. À ma grande surprise, on m'a dit que ce livre faisait du bien, qu'il était traversé de douleur, mais aussi de légèreté, que le titre qui m'était venu à l'esprit très tôt, en fait, avait du sens. Et donc aujourd'hui, je peux dire que je suis heureuse d'avoir fait ce livre, et je ne pensais vraiment pas pouvoir utiliser cet adjectif encore il y a quelques mois. Oui.
Non seulement vous vous êtes fait du bien, mais vous nous faites du bien. Mais c'est un peu la même chose avec vous, Charles Berberian, non?
C'est
un mode différent encore, hein, l'histoire n'est pas la même.
On est tous les deux dessinateurs, et on se sert de notre dessin pour nous exprimer et pour expurger des angoisses, des malaises. On pensait pas que le rôle de dessinateur, même un peu perturbateur ou provocateur, serait lié à un attentat. On pensait pas à ça, quoi. Et c'est vrai qu'on vit une époque compliquée. Quand je relis des interviews de Volensky où il disait dans les années 70, on essayait de se transformer soi-même et de transformer notre société. Aujourd'hui, continue-t-il ? Alors je le cite de manière un peu, pas précise. Il dit je comprends plus, on comprend plus. Donc on essaye de comprendre en dessinant aujourd'hui. On essaye de mettre de l'ordre en soi. Et alors, cette espèce d'ingrédient en plus qui est l'humour, je parle des Monty Python ou de Gottlieb qui ont vécu des choses dures et qui ont transformé ça en humour absurde. L'humour, ça aide beaucoup. Et quand j'ai lu le livre de Catherine, j'ai senti à quel point le dessin pouvait aider à transformer quelque chose d'horrible, que ça soit une impression ou une situation à laquelle on est confronté, en quelque chose de plus digeste éventuellement, mais en tout cas de plus beau. Et il y a cette recherche de beauté dans le livre de Catherine que je trouve très fort. Je trouve que c'est fort quand on part d'une situation, tout ce qu'il y a de plus horrible, et qu'on recherche la beauté à travers cette douleur, plutôt que de chercher de rester coincé dans la colère ou de rester coincé dans la peur. Donc oui, moi, le livre de Catherine m'a fait du bien en lisant. Je sais, consolation, j'ai un problème avec ce mot, parce que je me sens pas triste, je me sens angoissé, je me sens, par moments j'ai peur même de moi-même, c'est-à-dire de la colère qui peut me faire avoir des réactions que je trouve pas très élégantes. Donc j'ai pas besoin d'être consolé, j'aime pas ce mot-là. J'ai pas besoin non plus d'être rassuré. Oui, j'ai besoin d'être rassuré. Et rassuré par des gens qui ont cette capacité à aller vers les autres, même dans ces moments où on a tendance à appuyer sur la crainte de l'autre, la peur de l'autre. Et vous avez parlé des événements les plus récents. J'ai vu aujourd'hui un post de Jimmy Somerville qui chante un extrait d'une chanson de Bronski Beat, et qui présente une fleur en disant allons vers les autres, il faut toujours aller vers les autres, continuer à aller vers les autres. Et je pense que cette manière d'envisager le dessin comme un dialogue vers les autres, c'est je pense le plus beau rôle qu'on ait à jouer en tant que dessinateur, je pense.
Catherine Meurice.
Oui, et le dessin de Charles, par exemple, dans cet album, vous disiez que
mon album... Allez, dis-tu Vous n'allez pas y arriver.
Ton album vous connaissez. Du bien, voilà. Pardon pour les auditeurs. Moi, ton album m'a fait du bien parce que j'y retrouve des repères. En fait, faire la légèreté, pour moi, c'était retrouver plein de repères, et notamment dans le dessin. Lire le livre de Charles, Berberian, c'est retrouver des repères, c'est retrouver ton dessin, les images, ta façon de dessiner, les outils différents que tu utilises. Il y a des pages très belles qui font penser à Georges Grosse. Il y a un mélange comme ça. Et ça m'a fait du bien de revoir des images de dessinateurs que j'aime. Charles en fait partie. Il fallait que je retrouve cette culture du dessin, en fait, et des dessinateurs d'antan et des dessinateurs d'aujourd'hui, très contemporains. Il y a des dessins qui ont été publiés dans Fuite Glaciale, mais aussi dans la revue dessinée, au pastel ou au pinceau, à l'aquarelle. J'ai aimé me voyager dans ce livre, peut-être plus encore dans les couleurs, dans le trait que dans le propos. Le propos, bien sûr, est intéressant, mais j'ai d'abord aimé ce contexte sensuel. Je crois que la sensualité du dessin est vraiment indispensable.
Quoi. C'est pareil.
Charles Berberian.
Oui, c'est pareil avec la légèreté. Ce qui m'a frappé, c'est ce rapprochement dans l'utilisation de la couleur de manière sporadique et puis de varier les techniques, comme si utiliser le dessin dans sa manière la plus énergique possible, c'est-à-dire le mouvement, et la couleur dans sa manière la plus sporadique, comme si dans un monde où en noir et blanc, déjà en tant que dessinateur, quand on utilise le trait, il faut choisir son camp, la couleur amène cette espèce de résonance disons plus large, plus vague, plus ample, et de l'utiliser comme ce que fait Catherine, c'est-à-dire que on a l'impression que son dessin c'est comme si elle s'exprimait, si elle était musicienne juste avec un piano et ou un instrument de musique, ou même ne serait-ce que la voix, et d'un seul coup la couleur amène d'autres instruments qui viennent l'accompagner, et à un moment on est embarqué dans un flot de sons, en l'occurrence plutôt des couleurs, quoi. Et c'est comme si un grand orchestre venait derrière elle porter sa mélodie, et je trouve ça très 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 beau. Et c'est marrant parce que dans les dessinateurs qui nous ont précédés, ou qui tu citais Georges Grosse, mais il y a de ça aussi chez Wolinski et chez Cabu.
Oui, ils étaient tous très influencés, c'était leur modèle. Hein,
voilà.
Mais, ouais.
Et l'utilisation du trait et de la couleur de manière comme s'il y avait deux pôles. C'est pas du coloriage, voilà. C'est le dessin est utilisé soit avec le noir et blanc, et la couleur, c'est cette espèce d'intrusion d'un seul coup d'autre chose.
Oui, et puis si on continue sur le livre de Catherine Meurice, la légèreté, alors je parlerai beaucoup moins bien que Charles Berberian du dessin et de la couleur, mais dans la façon dont votre dessin et l'utilisation que vous en faites peut résonner avec les humeurs, l'état d'esprit dans lequel vous êtes, ou des moments où vous avez cet immense besoin de solitude et vous partez à la campagne sur les traces de votre enfance et vous allez enlacer un arbre. Et là, le dessin est très épuré. Enfin, on voit l'arbre et vous, mais il y a pas grand-chose. Il y a une couleur assez, assez douce, où ce coucher de soleil flamboyant, sans mots, où vous êtes face à la mer, et en fait on est emporté dans la façon dont ça vous fait du bien. Et puis c'est cette page là que j'ai sous les yeux, ces deux pages que j'ai sous les yeux, où là le dessin se fait peut-être moins précis, mais corrigez-moi si je parle pas bien, mais et où vous avez d'un côté, là c'est vraiment l'alternance entre ces pages bouleversantes et des pages où on rit. Et on a ce moment où il se trouve que vous êtes accompagnée de gardes du corps, Catherine Meurice, et les gardes du corps ne vous lâchent pas d'une semelle. C'est leur rôle. Bon. Et vous avez envie de, vous cherchez l'amour, vous avez envie que tout d'un coup, que votre esprit divague et que quelqu'un vienne vous voir avec un immense, avec un gros bouquet de roses et vous dise, mademoiselle.
Voilà. Je rêve que l'amour débarque.
Voilà.
L'amour, avec son petit canotier, son bouquet de fleurs et sa lyre. Je rêve d'une étreinte amoureuse, ouais.
Et le dessin suivant, c'est un énorme ouch, c'est-à-dire une main d'un espèce de gros malabar qui vient écrabouiller ce prétendant que vous avez imaginé. Bon, on rit dans ce moment-là. Et oui. La page d'après est une page où votre amoureux, dans le dessin, dans l'album, vient vous voir, vous lui ouvrez la porte, il n'y a presque pas de mots, et vous fondez en larmes. Et vous vous représentez, c'est du noir et blanc, mais vous êtes en bleu très clair, et vous fondez réellement,
littéralement
en larmes. Et finalement, ces deux pages disent, je trouve, tout la force de la richesse qui alterne entre douleur et quête d'autre chose. Donc c'est par le dessin et les mots, en l'occurrence, Catherine Meurice. Pardon, et... cette très très longue intervention.
Non,
difficile
tout,
de parler de dessin.
C'est
là.
Toujours difficile de parler de dessin à la radio, mais mais c'est sûr que le dessin, en ce qui me concerne, enfin je crois que Charles peut dire la même chose, mais me prouvait que j'étais en vie. En fait, j'avais besoin de me dessiner en train de marcher, en train de fondre en larmes, en train de rire, parce que ce petit dessin, ce petit personnage là dans son anorak avec ses baguettes de tambour à la place des cheveux et son grand pif, c'était trois coups de crayon, mais c'est trois coups de crayon qui me prouvait que j'étais en vie. Donc j'avais besoin de m'avoir sous la plume, en fait. J'avais besoin de me suivre comme ça, de me dédoubler pour me voir en vie, pour me voir cheminer. Donc le dessin est un allié de poids, c'est extraordinaire, en fait, et je m'en suis rendu compte en faisant ce livre. En fait, je n'imaginais pas à quel point... Pour moi, le dessin avait été extrêmement fragilisé en janvier 2015, il avait été une cible, et finalement, là, je le retrouvais comme une armure, en fait, Et oui, c'était assez étonnant de se rendre compte de ça. Je crois qu'on n'a pas fini de découvrir la richesse du dessin, de s'en faire un allié, un ami. C'est un métier fragile, mais magnifique.
Il y a le dessin, mais dans votre cas, Catherine Meurice, il y a l'art en général. Vous rendez un hommage appuyé à la peinture, la littérature, la musique, les théâtres. Et finalement, c'est aussi par l'art que vous retrouvez, puisque vous partez en quête de beauté. C'est la beauté qui va vous sauver, pensez-vous. Et donc, la première apparition d'ailleurs de l'art dans votre bande dessinée, dans La Légèreté, c'est le cri de Munch, qui arrive justement en couleur après que vous avez traversé comme un passe-muraille des salles vides de musées.
Oui. Où la beauté a déserté les murs de cette galerie imaginaire, la beauté a déserté la vie, en fait. Et c'est vrai que le cri de Munch et j'ai recours à cette peinture pour pousser un cri qui n'a pas été poussé le 7 janvier, en fait. Et il y a aussi une présence de la peinture dans quelques pages avant. Il y a un Rothko où je suis face à l'océan, et à un moment donné, il y a comme un incendie, une inondation comme ça de lumière, et en fait je suis dans un tableau de Rothko. On peut imaginer que c'est le brasier du 7 janvier, mais aussi peut-être la lumière à venir, l'issue de secours, en fait, et ça je l'ai dessiné sans calcul, en fait, sans imaginer qu'en fait cet art-là, j'allais vraiment le traverser pour de bon, notamment à la Villa Médicis, où je vais à l'automne 2015, je vais à Rome, je vais véritablement traverser les tableaux du Caravage, je vais être transpercée par cette beauté, ce mot beauté auquel je m'accroche désespérément, sans doute naïvement, mais je crois que ma naïveté peut être tout à fait pardonnée, parce que je crois que la beauté nous sauve, oui, vraiment, j'y crois plus que jamais. Mais encore plus après le 7 janvier, oui.
Charles Berberian.
Ce que j'aime particulièrement aussi, c'est que tu cites toutes ces œuvres, mais tu les dessines, ou tu les redessines, tu les interprètes. Et il y a une transmission comme ça qui se fait entre une longue chaîne de peintres ou de dessinateurs. Et en même temps, cette beauté, elle naît de ton dessin, pas de l'œuvre. C'est pas comme si Catherine avait photographié, par exemple, la peinture de Rothko et l'avait reproduite dans le livre. Elle, elle la reproduit en la redessinant. Et ça, j'aime beaucoup, en musique on appelle ça l'art de la reprise, et la reprise révèle autant les musiciens qui reprennent ce morceau que le morceau, enfin le musicien qui a composé ce morceau. Là, pour moi, à l'arrivée, c'est Rothko par Catherine Meurice. Je me demande s'il n'y a pas une beauté particulière à cette reprise, même j'en suis sûr, quoi. C'est-à-dire que c'est finalement cette reconquête de la beauté, mais à travers son propre dessin. Finalement, il n'y a que les dessinateurs qui peuvent le faire. Et en plus, le dessin est humble par rapport à la peinture. On n'est pas dans le milieu du grand art. On est dans le dessin. On est dans quelque chose qui est plus modeste. Et se réapproprier les chemins de la beauté juste en disant, ben, je suis dessinateur, dessinatrice, et je fais avec ce que j'ai, et je tends vers ce truc qui est plus grand que nous tous, puisque la beauté, c'est pas seulement la beauté d'un tableau, c'est la beauté, tout bêtement la beauté, devant un paysage, devant des arbres qu'on veut enlacer. Et c'est ça que je trouve très très fort dans ce livre. Je vais me répéter, donc je vais arrêter là. mais franchement, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de ça. Je crois, hein, je sais pas.
Rien. Je n'ai pas de hobby, je ne fais pas de sport.
Et c'est avec la chaconne de Bach qui est présente dans La légèreté de Catherine Meurice que nous passons quand même au bonheur occidental. Il faut quand même qu'on ait un petit peu de temps. Vous parlez beaucoup et avec grand enthousiasme, grand élan vraiment, du livre.
Je suis trop bavard,
c'est vrai,
désolé.
Formidable de Catherine Meurice. Mais il faut quand même qu'on dise un petit mot du vôtre, Charles Berberian. Hétéroclite, je disais, dans la forme comme dans le fond. C'est ce qui a été premier pour vous, dire je vais faire quelque chose d'assez hétéroclite.
Moi, je disais en antenne que mon livre avait plus à voir avec la connerie qu'avec la beauté. je me suis attaqué en fait à ce qui, vous parliez de dérèglement de notre époque et tout ça, mais c'est vrai que je me suis dessiné de manière un peu embarrassante.
Déjà, vous vous dessinez, oui.
Ouais, c'est-à-dire que, partant du principe que je vais pas dresser un portrait fantastique de moi-même, me donnerait éventuellement le droit aussi de me moquer de ce qu'il y a autour de moi, quoi. Donc, j'ai pas arrangé le portrait ou l'autoportrait. Et puis ensuite, je me suis dirigé vers ce qui me semblait être le plus absurde ou le plus bête, ce qui m'énervait, ce qui m'angoissait, ce qui m'attristait. Et puis voilà. Et donc le bonheur occidental, j'avais ce titre également assez tôt, même avant de démarrer le livre. Je me suis dit, tiens, ça ferait un bon titre de bouquin.
Quel que soit ce qu'on met dedans.
Après, il faut répondre à ce postulat. Qu'est-ce que c'est que le bonheur occidental? Et donc la facture kaléidoscopique du dessin me semble convenir à une réponse que j'ai tenté d'amener à cette question.
Oui, on se dit un monde, peut-être un monde un peu fou, peut-être sans aucun repère, complètement déjanté, ce portrait de cette société-là. C'est peut-être ça, finalement, le bonheur occidental. Arriver dans une boîte de nuit et être célèbre comme vous et ne pas être reconnu et donc être jeté. C'est des petites choses comme ça.
Il y a quelque chose d'ironique dans le titre, évidemment. C'est-à-dire que le bonheur, soit c'est le bonheur, mais si c'est occidental, il y a déjà quelque chose qui marche pas. Et à côté de ça, moi j'habite dans un quartier où il y a beaucoup de réfugiés ukrainiens, afghans, syriens. Et on peut dire, enfin je le vois, je l'ai sous les yeux, je pensais pas du tout à ça, qu'ils viennent chercher le bonheur occidental, forcément. Ils fuient un cauchemar chez eux. Et le bonheur occidental, je le vois avec les jeunes afghans, c'est une coupe de cheveux un peu branchée, puis un téléphone intelligent. Ils ont ça, quoi. Donc oui, alors peut-être que nous, comme on est sur place, le bonheur occidental, c'est ironique, mais pour ceux qui débarquent et qui cherchent refuge chez nous, c'est pas si ironique que ça.
Oui, puis d'ailleurs, dans votre livre, vous dites que c'est la connerie qui a dominé. Je ne sais pas ce qu'en pense Catherine Meurice, mais on peut dire quand même ce qui est la force. Une façon de lire ce bonheur occidental, c'est précisément cette liberté de ton, cet humour débridé, ce goût pour le burlesque, hommage au Monty Python.
Oui, exactement, les Monty Python, Charles Berberian en parlait, ça fait partie de mes références aussi. C'est une référence de nombreux dessinateurs, je pense. Et les Monty Python, il y a des hommes politiques à la sauce Monty Python dans son album. J'étais assez
oui, c'est vrai. C'est une satire politique.
Agréablement surprise de voir Charles dessinant DSK. Alors tout ce petit monde est rebaptisé, bien sûr, hein, DSK, Sarkozy, Hollande, qui sont dans des
Sarkouille, DSQ, Orlando Molande.
Et c'est intéressant parce que moi j'ai donc fait longtemps du dessin politique à Charlie Hebdo, et là il s'agit de d'hommes politiques qui ne sont pas, enfin ce sont pas des dessins qui sont faits pour un journal d'actualité, c'est fait pour un livre, c'était pour une revue de bande dessinée, donc c'est pas tout à fait les mêmes mises en scène. Il y a la bande dessinée qui permet bien sûr de rallonger le temps de narration, donc on peut se balader avec Hollande qui et Merkel etc plus longtemps que dans un dessin de presse, mais j'y ai trouvé la même lassitude aussi à dessiner les hommes politiques. Notamment Sarkozy. Il y a un passage très très drôle, on parlait de dessin tout à l'heure, où Sarkozy devient à un moment donné un gribouillis, et le personnage de Charles Berberian lui dit « Mais qu'est-ce que vous êtes mal dessiné ? Enfin, je vais arrêter de vous dessiner, vous êtes trop mal dessiné. » Et puis finalement, Sarkozy s'en va, le petit personnage gribouillé comme ça s'en va et se fait écraser par un camion hors champ. Et ça, c'est drôle parce que à Charlie Hebdo, je me souviens du dessinateur Luz qui avait, contrairement à un Cabu par exemple, qui ne pouvait pas se lasser de cette... je dirais de cette laideur en fait des hommes politiques, parce que je trouve assez laid tout ce qui n'est pas vraiment pérenne, encore plus depuis l'attentat contre Charlie. Mais Luz en avait eu sa claque aussi de dessiner Sarkozy, c'est vrai qu'on passait son temps à le dessiner. Il avait mis ça en scène aussi, pas dans une bande dessinée, mais il en avait fait une performance artistique. Il avait réuni tous ses dessins de Sarko, et puis il les avait chiffonnés, il les avait mangés, il s'était filmé. Bon voilà, on a du mal à ne pas se lasser des hommes politiques en dessin.
Pour le haut plateau de Belleville, d'où je vois toute la ville, et pour le vent qui tourne autour des fenêtres de la tour, pour le trottoir ruisselant, pour le café, les croissants, et pour l'accordéon qui boite au fond du souterrain moite, pour la nuit sur les bateaux mouches, et pour ça. Pour les
Jeanne Chéral, merci, ces petits bonheurs de chaque instant, ça c'est peut-être un peu plus un clin d'œil pour vous, Charles Berberian, parce que je crois que vous aimez particulièrement Jeanne Chéral parmi tous les musiciens que vous aimez. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
Charles Berberian, le bonheur occidental chez Fluide des Glaciales, Catherine Meurice, la légèreté chez Dargaud. Un grand merci d'être venu à la Grande Table.
Merci.